Raoul Weinegem a publié un livre dont le titre est « Nous qui désirons sans fin ». Et de ce
délirons.
Nous qui désirons.
Ah, qui désirons sans fin, oui. Nous qui désirons sans fin.
Qu'est-ce que vous pensez de cette idée que de toute façon, il y a cet irréductible désir qui fait que l'histoire continue?
Mais de toute façon, il y a un irréductible désir. Et encore. Là, vraiment, je ne sais pas si on aura le temps, on entre dans un gros chapitre. Parce que ça, ce n'est pas vrai, c'est un phénomène relativement moderne. Si vous prenez les sociétés archaïques ou les sociétés traditionnelles, il n'y a pas un irréductible désir. On ne parle pas là du désir du point de vue psychanalytique, on parle du désir tel qu'il est transformé par la socialisation des gens. Or, ces sociétés sont des sociétés de répétition. Bon. Alors, là, précisément, et surtout dans l'époque moderne, il y a une sorte de libération, dans tous les sens du terme, par rapport à des contraintes qui étaient les contraintes de la socialisation des individus. C'est-à-dire, tu prendras une femme dans tel clan, dans telle famille, tu auras une femme dans ta vie, si tu en as deux ou deux hommes, ce sera en cachette, en transgression, etc. Tu auras un statut social, ce sera ça. Il y a une chose merveilleuse dans Proust, dans le monde de Combray. Dans la famille de Proust, quelqu'un qui avait épousé, qui était de la très bonne bourgeoisie de province, enfin dans la famille qu'il décrit, quelqu'un qui avait épousé une duchesse, une princesse, avait déchu. Même s'il avait de l'argent, il devenait un gigolo, quelqu'un qui sortait de sa caste pour monter plus haut. Mais monter plus haut, c'était déchoir. Être bien, c'était continuer dans cette voie. Peut-être ramasser un peu plus d'argent, mais continuer dans cette voie. Bon. On est entré dans une époque d'illimitation dans tous les domaines, et c'est ça, nous qui avons le désir infini, vous comprenez. Or, cette libération est en un sens une grande conquête. La question de revenir dans une société de répétition. Mais il faut aussi apprendre, et ça c'est un des très grands thèmes, apprendre à s'auto-limiter, individuellement et collectivement. Et la société capitaliste maintenant est une société qui, à mes yeux, court à l'abîme de tous les points de vue, parce qu'elle est une société qui ne sait pas s'auto-limiter. Mmh. Et une société vraiment libre, une société autonome, comme j'ai dit, devra savoir s'auto-limiter.
Interdire ?
C'est pas interdire au sens répressif, mais savoir qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire, ou qu'il ne faut même pas essayer de faire, ou qu'il ne faut pas désirer. Par exemple, par rapport à l'environnement. Quand je dis, par exemple, j'écris que nous devrions, dans une société libre, nous vivons sur cette planète merveilleuse que nous sommes en train de détruire. Et quand je prononce cette phrase, je repense aux merveilles de cette planète. Je repense à la mer Égée, je repense aux montagnes enneigées, je repense à la vue du Pacifique depuis un coin d'Australie, je repense à, je sais pas, à Bali, aux Indes, à la campagne française qu'on est en train de démolir, de désertifier, etc. Bon, c'est une merveille. On est en train de la démolir. Qu'est-ce que nous devrions faire? Je pense que nous devrions être les jardiniers de cette planète. Il faudrait la cultiver. La cultiver comme elle est pour elle-même. Et trouver notre vie, notre place relativement à cela. Et ça, c'est une énorme tâche. Et ça pourrait absorber une énorme partie des loisirs des gens. Libérés par un travail stupide, productif, répétitif, etc. Or ça, évidemment, c'est très loin, non seulement du système actuel, mais de l'imagination des gens actuellement. Vous voyez ? L'imaginaire de l'époque, comme je dis, est très loin de cela. Et c'est cet imaginaire de l'expansion illimitée, de l'accumulation, de la camelote, etc., etc., d'une télé dans chaque chambre, deux micro-ordinateurs dans chaque chambre, et dans chaque pièce de la maison. C'est ça qu'il faut détruire. Tout dépend de ça. Le système s'appuie parce qu'il y a cet imaginaire qui est là et qui fonctionne, effectivement.
Ce dont vous parlez là sans cesse depuis tout à l'heure, c'est la liberté.
Oui.
Derrière ça, il y a la liberté. Alors vous dites, ah oui, mais ça, c'est très lourd, c'est difficile, il faudrait... Et ça, c'est difficile, etc. Difficile, liberté.
Ah oui, la liberté, c'est très difficile, oui. Elle est très facile d'être...
Démocratie difficile.
Démocratie difficile, liberté, liberté difficile, oui, absolument. Parce que c'est très facile de se laisser aller, l'homme est un animal paresseux, on leur a dit. Là encore, je reviens à mes ancêtres. Il y a une phrase merveilleuse de Thucydide, je ne sais plus dans quel discours.
Les sacrés ancêtres, hein.
Les sacrés ancêtres. Il faut choisir se reposer ou être libre. Je crois que c'est Périclès qui dit ça aux Athéniens. Si vous voulez être libre, il faut travailler. Vous ne pouvez pas vous reposer. Vous ne pouvez pas vous asseoir devant la télé. Vous n'êtes pas libre quand vous êtes devant la télé. Ouais. Vous croyez être libre en zappant comme un imbécile. Vous n'êtes pas libre. C'est une fausse liberté. Donc, liberté difficile, parce que liberté, ça veut dire à la fois une activité. C'est pas seulement l'âne de Buridan qui choisit entre deux tas de foin. Bon, liberté, c'est l'activité. Et liberté, c'est une activité qui, en même temps, s'auto-limite. C'est-à-dire, c'est que elle peut tout faire, mais elle ne doit pas tout faire. C'est ça le grand motto, pour moi, de la démocratie et de l'individu libre. Je peux tout faire.
La liberté, c'est les limites. Philosopher, c'est établir les limites.
Non, la liberté, c'est l'activité. Et l'activité qui sait se poser ses propres limites. Et philosopher, c'est la pensée. Et c'est la pensée qui sait reconnaître qu'il y a des choses que nous ne savons pas et que nous ne connaîtrons jamais.